De retour à Delirium Environnemental, magazine d'information en environnement. On continue donc, je m'excuse, la revue de presse, revue de l'actualité. Bonne nouvelle dans le dossier des grands lacs, Nicolas Milo.
Oui, next. Pardon, un petit fou rire.
Mal placé.
Une nouvelle, dans le fond, qu'on va considérer bonne après ma barre, mais en même temps qui doit être nuancée.
Comme toujours.
Alors, l'espèce de groupe des premiers ministres ou des gouverneurs des États riverains des Grands Lacs s'est entendu la semaine dernière sur une entente pour la protection des ressources en eau durables. Alors, ça,
oui,
c'est
hein,
le titre, c'est
des
beaux
titres.
Ça, c'est
les ressources durables ou c'est les...
Je sais pas.
C'est l'eau qui est durable.
C'est comme l'eau dure. Mais bref, une entente, dans le fond, entre ces 8 États états-uniens-là et la province Ontario et Québec sur, dans le fond, une entente de protection et de préservation des ressources en eau douce qui, rappelons-le, représente un cinquième des ressources mondiales d'eau douce qui ne sont pas sous forme de glacier. Donc, quand même, quelque chose de très important à prendre en compte, d'autant plus qu'il y a une pression qu'on peut suspecter d'ici 20, 30, 40 ans du Midwest américain. Même avant ça, mais avec l'ampleur des travaux que ça impliquerait, je pense qu'il faudrait quand même attendre 20 ans avant que ça soit réalisable. Mais bref, les idées sont là et c'est en ce sens-là que c'est une bonne chose. Qu'on a dit, c'est qu'il n'y aurait aucune dérivation. Dans le fond, le cœur de l'entente, c'est qu'il n'y aurait pas de dérivation majeure d'eau. Toute ponction d'eau devrait retourner au bassin. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une entente qui est satisfaisante. Le problème, c'est que on a des cas d'exception. Comme dans n'importe quelle entente, il pourrait y avoir des cas d'exception. Et c'est en ce sens-là qu'il faudra être vigilant dans l'avenir. C'est qu'on a limité, dans le fond, les cas d'exception à tout prélèvement. Dans le fond, tout prélèvement de 19 000 mètres cubes par jour devra être soumis à l'étude de l'ensemble des parties. Sinon, on pourra les laisser aller. Donc, on peut se dire, juste pour vous dire à peu près, à Montréal, il passe à peu près 8000 mètres cubes seconde. Donc, 19000 mètres cubes par jour, c'est pas beaucoup pour les Grands Lacs. Le problème, c'est que s'il y a 100, 200 projets de 19000 mètres cubes par jour, là, on risque d'avoir des effets qui pourront être visibles. Et c'est surtout aussi que cette entente-là est basée sur les conditions actuelles. Les changements climatiques qui risquent de diminuer le débit sortant du lac Ontario de 20-30% peut-être d'ici 40 ans, là, on vient complètement de changer la donne. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant, en fait, parce qu'on a mis un cadre. On a dit, quand on voudra prélever dans le futur, il n'y a pas un État qui pourra prendre une décision. C'est ensemble, tout le monde, qu'on va prendre une décision et ça empêche surtout les autres États de venir s'ingérer dans la gestion de l'eau des Grands Lacs.
Est-ce que les provinces ont autant de pouvoir que les 8 États? Est-ce que c'est vraiment d'égal à égal qu'on négocie dans ce cadre-là?
Présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a 8 États et une province qui sont d'égal à égal parce que le Québec n'a pas... Dans le fond, le Québec, on s'en fout un peu dans ce cas-là. Il est quand même bien que le Québec ferait des prélèvements dans le Saint-Laurent, ça n'affectera jamais les Grands Lacs. Donc, nous, on a été à la table davantage pour inclure la partie qui reçoit le résultat, mais quand il y aura une négociation à avoir lieu, ce sera davantage entre les États-Unis et l'Ontario que cette négociation-là va avoir lieu, parce que c'est là que les impacts vont être rapidement ressentis, alors que le Québec, lui, reçoit un peu s'il reste, et de toute façon, le débit sortant du lac Ontario est déjà très contrôlé par le barrage Moses Sanders à Cornwall. Donc, Moses Sanders,
on le connaît bien.
En ce sens-là, je dirais que pour le Québec, c'est peut-être plus à titre d'observateur présentement qu'on est là, mais le fait d'être déjà à cette table-là est quand même quelque chose de très important pour le futur, où les conséquences pourraient être, comme je le disais, dans 20, 30, 40 ans, si les débits sortants sont différents à cause des changements climatiques, si le nombre d'activités de puisage a été très très élevé et donc affecté de façon significative le bassin. Là, ça sera intéressant. Donc, cette entente-là est présentement, je dirais, une bonne chose parce qu'elle met des choses sur la table, mais en même temps, c'est à suivre. Telle qu'elle est présentement, elle continue à être dangereuse selon ma petite analyse très personnelle.
C'est splendide, ça.
Merci beaucoup, Nicolas Milo. Non, c'est intéressant. On passe du coq à l'âne, on s'en va dans la cuisine, on parle de Teflon, comment cuisiner avec des poêles anti-adhérentes.
Ouais,
c'est dangereux, le Teflon, par exemple.
Foire à la Vitasio.
Bon appétit. Non, mais en fait, on reste aux États-Unis parce que faut comprendre que la compagnie DuPont, qui est la titulaire du brevet Teflon, ce fameux anti-adhésif qui, depuis 20 ans, fait jubiler toutes les cuisines cuisinières et cuisiniers de cette planète, eh bien, cette compagnie DuPont est en train de se faire rabrouer pour son attitude dans les 20 dernières années pour, un, avoir contrôlé l'information, puisque apparemment, on a fait plusieurs études qui nous montreraient, semble-t-il, plusieurs impacts sur la santé humaine de l'utilisation du téflon. Le téflon, soumis à haute température, se relâcherait dans les aliments et les
genre
gens...
sur un poêle.
Genre, si tu laisses ta poêle à max pendant 2 minutes, puis que tu mets ton œuf dedans, il y aurait probablement, et ça c'est non scientifique comme analyse, mesdames et messieurs, il y aurait probablement relargage de certaines particules d'une acide qui s'appelle l'acide perfluorooctanoïque. Appelons-la l'APFO ou la C8, en fait, c'est son petit nom cute, la C8. Et puis l'accumulation d'informations, la non-divulgation d'informations avait coûté à DuPont en 2001 environ 107 millions de dollars US suite à un recours collectif de citoyens de l'Ohio et de la Virginie occidentale qui avaient dit, écoutez, on croit vraiment que vous véhiculez de l'information fausse et en plus vous provoquez des impacts environnementaux dans notre région puisque la principale usine est dans ce coin-là. Eh bien, vous saurez, mesdames et messieurs, qu'on a une nouvelle à ce sujet. La EPA, la Environmental Protection Agency, vient de donner une amende de 10,5 millions de dollars supplémentaires à cette même compagnie DuPont. La force, en plus, à investir 6,25 millions de dollars dans des projets environnementaux. C'est vraiment dans le cadre d'un règlement suite à des allégations d'autorités américaines concernant le téflon directement. Et puis, ce qu'on risque de voir apparaître dans les prochains mois, c'est la divulgation d'informations de plus en plus claires sur l'état ou en fait l'impact de cette fameuse acide perfluoro-octanique sur la santé humaine. Donc la EPA qui va d'une amende quand même assez imposante puisque ça serait selon certains groupes environnementaux une des plus grosses sanctions infligées à une compagnie suite à des cas de possible risque à la santé humaine. Donc une nouvelle qu'on prend d'un bon œil puisque s'il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'on mange et qu'on comprenne que ces compagnies-là font ça pour le profit, non pas pour le bien-être de tous et chacun, eh bien, c'est de l'information comme ça qu'on va avoir de besoin.
Ça me semble bien évident. Merci beaucoup, Nicolas Mainville. On se souvient aussi qu'il y a peut-être un mois, tu nous avais parlé aussi de l'impact de l'aspartame sur la santé. C'était assez paniquant de savoir justement que ça avait été lancé comme ça dans l'alimentation sans que des tests sérieux aient été faits et que c'est dramatique comme impact sur la santé. Vous trouverez, et nouveau mot, vous allez tout trouver ça. Vous trouverez tout ça. Je m'excuse, c'est Noël dans ma tête. Sur notre site Internet, en cliquant sur le mot archive, vous avez accès à toutes les anciennes émissions et surtout, vous avez accès à toutes les nouvelles desquelles on vous a parlé. C'est une belle façon de se référer. Vous cliquez sur le mot archive, je vous dis. Bref, on s'arrête quelques secondes. Au retour, c'est les brèves. Déjà. Retour à Délirium environnemental et c'est déjà la fin, donc ça veut dire que c'est le temps pas des coups de cœur, coups de main, c'est le temps des brèves cette semaine, messieurs.
Voilà. Alors, moi, je vais vous parler d'un joyau québécois, la Chaupe-Mouchouane. Vous savez, si vous avez jamais descendu cette rivière-là en canot, là, c'est le temps de la faire parce qu'il y a encore un libéral qui fait des siennes, Carl Blackburn, député de Robertval, qui dit que même si ça doit devenir un parc, les gens de la région, une réserve aquatique.
Une réserve aquatique,
Nicolas, merci. Eh bien, même si on envisage ça pour la Chaupe-Mouchouane, les gens de la région devraient pouvoir se prononcer à savoir si on devrait, oui ou non, exploiter les ressources hydroélectriques de cette majestueuse, que je dise, sublime rivière du Québec. Mais bref, manifestons parce que quelque chose qui semblait être classé, check bien ça, ils vont rouvrir le dossier de la Moisy bientôt. Bande!
Écoute, pendant que tu es dans le dossier des aires protégées, je vous rappelle que ça fait maintenant un an que le rapport Coulombe a été déposé. Rapport Coulombe qui nous a donné état de la forêt québécoise et constat sur la surexploitation de la ressource. Depuis un an, ce que le ministère des Ressources naturelles a bien réussi à faire, eh bien, c'est de passer la loi 71 sur la réduction de 20% de la possibilité forestière. Cette loi 71 même qui fait grincer des dents plusieurs régions en ce moment, malgré le fait que c'est un avant-goût de ce qu'on devra faire pour réduire la surexploitation de notre ressource. On annonce aussi, il y a même moins d'un mois, la création du poste de chef forestier et la nomination de M. Levac comme nouveau chef forestier au Québec. Cette nomination a été quand même bien accueillie. Il reste à voir ce qui va être fait avec ça. Eh bien, sur 81 recommandations du rapport Coulombe, seulement 2 ont été mises à l'œuvre. Donc, évidemment, la tension monte, l'industrie ferme plusieurs portes et les groupes environnementaux sont en beau joie le vert parce qu'il se passe rien point de vue environnemental. D'autant plus qu'on ne protège très peu notre territoire. Donc, c'est à suivre, ce rapport Coulombe.
Parlons-en de la protection du territoire. Vous avez peut-être vu que c'était la levée du moratoire sur les porcheries au Québec. Eh bien, ça, c'était le 15 décembre dernier. Intéressant de savoir que M. Benoît Gingras, qui est à l'Institut national de la santé publique, en fait, c'était le représentant du ministère de la Santé dans ce dossier, a tout simplement décidé de prendre congé de sa fonction de conseiller à l'Institut national de santé publique et au ministère de la Santé, parce qu'il dit que lui, ça fait 10 ans qu'on tente de convaincre les décideurs qu'il y a des risques, justement, à implanter des méga-porcheries comme ça. Et il est tout simplement loin d'être convaincu que les recommandations du Bureau d'audience publique en environnement vont être mises en place, soit entre autres l'analyse des impacts des nouveaux projets et de donner une chance aux citoyens de s'impliquer adéquatement. Tout ça dans un contexte où on a commandé 5 études, mais on les recevra pas tout de suite, ces études-là. Fait qu'en attendant de savoir si c'est dangereux pour la santé ou pas, ben on va sûrement y aller de l'avant. Quelle belle idée! Allons-y avec des méga-porcheries. Voilà.
Eh bien, moi, je vous amène côté ontarien. Vous vous souvenez, au début du mois, l'OPA, l'Autorité ontarienne de l'énergie, son acronyme anglais,
Opa,
sortait ce rapport, mon Dieu, qui disait que la province n'aurait pas le choix de se rabattre sur le nucléaire pour assurer son approvisionnement énergétique dans le futur. On y allait même jusqu'à on devrait, dans le fond, produire jusqu'à 12 400 mégawatts uniquement de nucléaire pour suffire à la demande au cours des 40 prochaines années.
À peu près le tiers du Québec, ça.
C'est le tiers de ce qu'on
produit au Québec. De la production totale.
Exactement. Et la ministre des Ressources naturelles, cette semaine, du Comté ontarien, qui réduisait de beaucoup les aspirations des groupes environnementaux d'être consultés et de même de la population qui, elle, veut se manifester. Parce que quand on parle de 12 000 mégawatts, c'est quelque chose à long terme. La population devrait peut-être être impliquée. Mais là, on essaie de fermer des portes en disant que les Ontariens sont déjà manifestés sur le nucléaire. On connaît les arguments, on connaît les positions. Pas besoin d'y aller.
Ben, surtout quand on sait qu'il prévoit envoyer les déchets nucléaires dans le nord, la côte nord, là, les espèces de projets qui avaient été déposés le mois d'avant.
Projet, ouais. Bouclier canadien au Québec, un bel endroit pour mettre ça. 40 milliards de dollars sur 20 ans, les investissements en nucléaire qu'il pourrait y avoir en Ontario.
Et juste au niveau nucléaire, un Tchernobyl ontarien, là. Je veux dire, ça nous touche un peu.
Ça pète. Ah non, on n'est jamais à l'abri. Saviez-vous ça quand Tchétchénie, en fait, à Grosny, dans un quartier de Grosny, ils ont remarqué que la radioactivité atteignait jusqu'à 58 000 fois la normale. Tout ça à côté de tours d'habitation puis de stations d'autobus.
Rendu pourquoi? À 58 000 fois, t'arrêtes de compter.
Ben, me semble, moi aussi, me semble que t'as pas un petit bras qui pose en tronc, là.
C'est quoi la cause?
Ben, justement, c'est une enquête qui a été ouverte et qui a révélé que c'était une industrie pétrochimique tchétchène, en fait, une société publique d'industrie pétrochimique tchétchène, qui avait mal confiné ses contenants avant de les enfouir. Et donc, c'est pour ça que les gens se font blaster à la radioactivité. Bon appétit, tout le monde.
Mais, hey, saviez-vous ça que vous, la société de transport de l'Outaouais, va recevoir 12 nouvelles autobus hybrides, n'est-ce pas magnifique? Eh bien oui, on a mis la totale, on est censé en avoir à Montréal seulement en 2007, et bien considérant justement la diminution des gaz à effet de serre et des autres polluants, peut-être qu'il faudrait en commander d'autres pour après 2007, hein?
S'il vous plaît.
Et justement, vous savez que le maire Gérald Tremblay, maire de la ville de Montréal, s'intéresse aux idées de Projet Montréal qui, pendant la campagne électorale municipale, véhiculait les idées d'intrusion du nouveau tramway à Montréal. Vous savez que Projet Montréal a proposé il y a 2 semaines que le maire Tremblay revise son budget qui a été rabroué par toute la communauté montréalaise, qui revise son budget en présence des autres partis d'opposition, donc l'équipe Bourque et Projet Montréal, dans une forme de gouvernance collégiale, en fait, que tout le monde discute ensemble et essaie d'amener des idées communes. Eh bien, le maire Tremblay semblerait intéressé à la question du nouveau tramway. C'est ce que M. Bergeron, chef du Projet Montréal, aurait laissé sous-entendre. Donc, ça laisse peut-être une porte ouverte au nouveau tramway. Vous savez qu'il y a déjà des projets de nouveau tramway sur l'avenue du Parc.
Ouais.
Mais Projet Montréal propose plus de 250 km de territoire de la ville transformé en tramway d'ici 15 ans, un investissement de plus de 15 milliards. Donc, c'est des idées qui semblent rentrer tranquillement, pas vite dans l'administration. Mmh. Tremblay.
Ouais, malheureusement, ouais. Ça se rend pas jusqu'à Québec. Hein. Parce que la mairesse là-bas, là, Mme Boucher, écoute, non seulement elle a été élue, ce qui est déjà, selon moi, une erreur, mais bref, il va d'autres erreurs en disant que le système de transport en commun de la région de Québec est un exemple d'un système de transport qui marche mal et que, bref, ça devrait, on devrait arrêter de archi-subventionner ça et d'éponger des déficits. Ce qu'on devrait faire, c'est augmenter les tarifs. Donc, augmentons de 25 à 30 % les coûts de transport en commun de sorte que ce système-là s'autosuffise lui-même, même s'il est peu efficace, et que, dans le fond, les argents soient mieux utilisés pour développer plus adéquatement le système routier automobile. Bref, on est à
incroyable,
Québec.
Incroyable, ça.
Pourtant,
recule,
je viens de Québec, je suis déçu.
Quelle cohérence avec cette dame qui disait que les pistes cyclables, c'est complètement fou, c'est dangereux, les gens peuvent se blesser. Merci, madame. Et tout ça pour vous rappeler la hausse des transports en commun. Cette fois, c'est sur la ville de Longueuil, après Montréal et Laval, et en attendant Outaouais, la ville de Longueuil qui augmente ses coûts du transport en commun. C'est le genre d'affaires qui font en sorte qu'il y a plus d'autos sur la route et moins de services dans les transports. Magnifique, qu'on n'est pas peu fiers.
Non, ça c'est vrai qu'on n'est pas peu fiers, mais c'est quand même ce qui va mettre fin aux brèves cette semaine. Bien sûr, il y aura d'autres. Toutes ces nouvelles seront archivées sur notre site internet qui se trouve au www.radiodelirium.net. Hey, je sais pas si vous avez compris ça, là, mais on est en élection au Canada. C'est des élections fédérales qui se tiennent présentement.
Effectivement, effectivement.
Alors, on vous propose une petite réflexion sur justement la plateforme électorale en matière d'environnement des quatre partis en lice. Au retour. De retour à l'élection environnementale, le magazine d'information en environnement. Comme je vous le disais, on poursuit donc avec une petite analyse politique de notre curie sur ce qui se passe présentement au Canada. Vous savez, ce grand pays qui est le nôtre. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, ceux qui en doutaient, n'en doutez plus. Vous allez donc avoir droit de vote, ma foi, au mois de janvier, après Noël. Quand
le 23,
le 23 janvier. Le
23
janvier. En tout cas, prenez position, c'est ce qu'ils disent, oui. Bref, petite analyse, plusieurs partis en liste, en fait, quatre partis en liste, Parti vert, NPD, libéral. Cinq en liste avec le Parti vert.
Le Bloc.
Oh mon Dieu.
Les conservateurs, les libéraux, le NPD et les verts.
Ah, ça fait cinq, excusez-moi. Alors donc, qu'est-ce à dire? Patrick Bonin, je sais pas pourquoi je pense que c'est toi qui vas briser la glace là-dessus. Alors, petite analyse des plateformes environnementales.
Votez Harper. Ouais, je vous invite d'ailleurs à faire votre propre analyse. Allez voir sur le site, ce sera dans nos liens, le site du Regroupement national des conseils régionaux d'environnement du Québec, qui nous ont fait une sélection justement des passages où on parle d'environnement, n'est-ce pas magnifique? Et je me suis lancé dans ces passages-là.
Ça faisait une demi-page à peu près.
Ça dépend desquels. Il y en a qui sont un petit peu plus exhaustifs que
là,
d'autres.
Là, tu parles des plateformes électorales. Là.
C'est ça que j'ai dit.
Ben, tu l'as pas dit pas en tout.
Mais ben, les passages où on parle d'environnement
dans les plateformes.
Ben, en fait, c'est pas tout à fait des plateformes, mais je me lance parce qu'il faut le faire à un moment donné. Commençons par le Bloc québécois. Bloc québécois que vous connaissez très bien. Eh bien, c'est impressionnant la quantité de choses qu'on met dans le développement durable. C'est beau, on peut rentrer plein de choses dans le développement durable. Au niveau de l'environnement, cette partie quand même essentielle du développement durable, on parle seulement d'eau, principalement du fleuve Saint-Laurent. Au niveau du Bloc, on parle quand même de changement climatique. C'est pas nouveau parce que c'est deux dossiers qu'ils ont porté beaucoup. Et évidemment, les OGM. Donc, c'est quand même, j'étais un petit peu déçu au niveau du Bloc québécois et je vous rappelle qu'on fait une analyse que nous voulons non-partisane. Donc, on tente d'être le plus objectif possible dans cette réalité non-objective.
Aucune mention sur le transport?
Non, je n'ai rien lu là-dessus. Le transport, c'est pas important. Mais, toujours est-il qu'on peut peut-être tomber dans le NPD, le nouveau Parti démocratique, avec Jack Layton, qui, malgré son manque de sourire lors du dernier débat, a quelques idées en environnement. Ma foi, j'ai été déçu, en toute franchise. Il n'y avait presque rien sur sa plateforme et je me posais la question, is it because I speak French and it's not translated on the French side?
Maybe.
Maybe, ah. Mais on the French side, il s'était pas marqué qu'en anglais il y avait plus de choses. On parlait simplement de l'eau
maybe
salubre.
Maybe in English, environment is not the same?
Maybe not. Mais on parlait d'eau salubre, d'air pur et d'environnement en général. Donc, trois grands termes. Tout ça pour dire que le NPD critiquait énormément les libéraux pour tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ne disait pas nécessairement, le NPD ne disait pas qu'est-ce qu'eux proposent par rapport à ça. Donc, c'est un peu, on pète dans le vide, là. Mm-hmm. C'est facile de chialer, mais on veut de quoi de plus constructif.
Dis-moi, les
voilà. Écoutez, je vais vous parler du Parti conservateur.
Plateforme pétrolière.
Eh bien, le mot environnement, combien y a-t-il de lettres dans le mot environnement?
Il y en a quatre.
Il y en a plus que quatre. Ça doit faire 16 environ. Eh bien, leur plateforme tourne autour de ces 16 lettres-là. On parle d'environnement. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez, allez voir dans le Robert ou dans le Larousse, c'était vraiment pas le cas. Donc, complètement évacué de leur plateforme, l'environnement, ne serait-ce qu'une mention que protocole de Kyoto, on va aller plus loin. Mais on se souvient qu'ils voulaient pas y aller du tout avant.
Voilà,
donc, vraiment pas convaincant. En fait, je suis complètement alarmé, ces gens. Que font-ils? Ils ne parlent pas d'environnement. Qu'est-ce qui nous reste? Les libéraux. Les libéraux, là, je sais pas, mais il me semble qu'il y a un problème lorsque les libéraux, ils n'abordent que les changements climatiques, que le transport en commun, et parlent d'environnement et les emplois. Donc, ça tourne autour de ça, les grandes lignes des libéraux. Kyoto. Bravo, Kyoto, une fois. Mais après ça, transport en commun, c'est interrelié à Kyoto et pollution de l'air. Et on parle de job. J'étais complètement sidéré, ne serait-ce...
Ne vous inquiétez pas, nous allons renvoyer personne pour sauver l'environnement. Vous allez tous garder vos jobs.
Écoutez, on a des critiques acerbes, mais à un moment donné, il faut... faut s'emporter un petit peu, surtout qu'on savait qu'il y avait des élections qui s'en venaient, puis qu'ils n'ont rien fait. Mais tout ça pour dire qu'ils ont mis une panoplie de citations sur leur première page, où on a Stephen Guilbeault, le 17 février 2004, qui a dit 1,5 lignes de positif sur les libéraux, et on sait que ça se retrouve sur le site. Ils m'ont presque convaincu, mais c'était pas suffisant, parce qu'il n'y a pas juste des citations mal placées qu'on met sur un site pour faire une plateforme.
Donc, somme toute, au niveau politique, encore vraiment une...
Il nous manque un...
Comme
tu
manques un parti, oublié le Parti vert.
Je suis tellement désolée.
Et écoutez, le Parti vert, on doit quand même en parler parce que c'est censé être leur plateforme centrale l'environnement par définition. En effet, c'est central. Par contre, central en anglais, pas mal.
Central.
En étant francophone, il y a absolument rien de développé en français. Quelle tristesse.
What a shame!
Oh, what a shame! En fait, c'est un peu inquiétant parce que leur plateforme 2005 n'est pas complétée encore et on doit donc se référer un peu à la plateforme 2004 parce qu'ils n'ont rien... ils n'ont pas tout adopté sur le 2005. Pourtant, on est en élection, ce qui est un peu paniquant selon moi.
Mais il semble avoir des problèmes internes aux partis qui ont l'air de ralentir.
Je sais pas, t'as-tu des
sources? Je sais qu'il y avait plusieurs commentaires face au chef qu'on critiquait d'être très, très rigide et de
tirer la place à Mitterrand. Ça, c'est l'ancien chef. Donc, à quelque part, c'est comme Chrétien, Jean Chrétien qui ne...
Alors que l'ancien chef critiquait le nouveau chef.
Ouais, donc à quelque part, c'est à prendre un peu en... Bon, on va remettre ça en perspective. Toujours est-il qu'ils ont une plateforme vivante, donc ils sont en train de créer tout ça. Oui. On peut contribuer par courriel, par téléphone, en personne ou name it. Donc, c'est intéressant, ils développent leur idée. Définitivement, le parti qui présente le plus de thématiques environnementales traitées de ces partis-là, on parle de qualité de l'air, protection des animaux, biodiversité, OGM, les espèces en danger, une philosophie environnementale, donc un peu plus philosophique, évidemment, pesticides, population, eau fraîche, produits toxiques. Donc, c'est quand même, eau fraîche, fresh water, eau potable, merci. donc, c'est pas complet, par contre, donc on ne sait pas à quel point, parce qu'ils n'ont pas tout entériné, mais je conseillerais quand même les autres parties d'aller fouiller un petit peu sur ces grands thèmes-là parce qu'il y a de quoi bonifier vos plateformes.
Ben, merci beaucoup, Patrick Bonin, de nous avoir parlé de tout ça. J'en retiens que le bilinguisme canadien, ce n'est pas encore une chose faite. Mais vraiment, merci beaucoup. Sur le site donc du porte-voix, le porte-voix qui est le bulletin du RNCREQ. Tout ça sera sur notre site Internet, bien sûr, c'est au www.radiodelirium.net. C'est important de s'informer puis de lire les plateformes électorales parce que vous savez, après, on est pris avec ces gens-là pendant 4 ans. Ils peuvent faire toute la différence dans la vie de tous les jours. On est de retour à Délirium environnemental parce que c'est comme ça. Et donc, c'est la fin. Ça veut dire que c'est enfin l'heure des coups de cœur, coups de masse et surtout, non, au calendrier cette semaine, c'est Noël au calendrier. Alors, messieurs, coups de cœur, coups de masse.
Moi, je me lance avec Evo Morales. J'en avais parlé, Evo Morales. Premier président en Amérique latine d'origine indienne, on
autochtone.
Dit indienne, autochtone, indigène, bref. Et on sait que la Bolivie, dans le fond, qui va être élu prochainement en Bolivie, les comptages se font actuellement, mais il menait par 51%. Donc, bravo, et on sait que les propositions avancées par ces mouvements très soutenus par les syndicats nationaux et par des élans de nationalisation des richesses naturelles de ces pays-là, pas ressources, richesses naturelles. Hein? Mm-hmm. Donc, bravo, on incite les autres.
Bravo, la Bolivie.
Le Pérou aussi, l'Équateur qui pourrait suivre cet exemple. Bravo!
Pendant qu'on est en Amérique du Sud, juste avant que Patrick commence à parler, j'ai un solide coup de masse à envoyer, excuse-moi Pat, envoyé à Monsanto, cette multinationale qui apparemment ferait du dumping illégal de maïs transgénique au Brésil, dans le sud du Brésil. Comme elle l'avait fait, si vous aviez suivi le dossier avec le soya transgénique, eh bien apparemment le mouvement des sans-terres est en train de faire un recours pour justement se plaindre contre Monsanto puisqu'elle dompe en quantité industrielle des graines transgéniques pour inonder le marché et ainsi forcer les agriculteurs à utiliser le Monsanto Roundup Ready maïs bande de fous. Alors un glow blâme à Monsanto.
Eh bien, vous savez, on est quand même des journalistes un petit peu à des normes environnementales ici. Du moins, on a de la prétention de faire des nouvelles. Eh bien, moi, c'est un coup de masse à la Chine, à Cuba, l'Érythrée et l'Éthiopie qui détiennent 2/3 des 125 journalistes emprisonnés dans le monde. Imaginez si c'était la même chose au Québec. Des gens avec des grandes langues, ou plutôt des gros mots dans la bouche, ou presque des idées dans la tête, comme nous, que dis-je, se seraient fait emprisonner au Québec.
C'est
sinon.
Clair.
Donc, ça fait longtemps qu'ils seraient derrière les barreaux.
Oui.
De ces sales coups de masse à envoyer à la compagnie Chrysler Daimler pour son nouveau Jeep qu'elle promène sur une plateforme roulante dans le centre-ville de Montréal depuis maintenant un mois. Alors avant, on avait juste le panneau publicitaire sur un gros truck qui pollue. Maintenant, on a le panneau avec un gros truck et un truck qui suit le panneau, qui monte le Jeep en question sur une autre plateforme qui suit le panneau. Imaginez là, vous avez deux camions qui suivent, qui brûlent du gaz, qui sont poignés dans le trafic toute la journée pour montrer un gros Jeep. Bravo!
Coup de cœur, coup de masse, un dernier qui vous fait plaisir. Peut-être un petit coup de cœur à tous ceux qui vont penser à faire attention au suremballage pendant le temps des fêtes et à la surconsommation. C'est pas une façon de dire au monde qu'on les aime que de leur acheter des bebelles. Il y a plein d'autres façons de le faire. Si vous voulez, on pourra s'en parler.
Ben moi je pense qu'on doit s'envoyer un coup de cœur. Nous tous ici quatre présents autour du micro réunis aujourd'hui en cette émission de fin de saison et de fin de je ne sais quoi. Après tant de plaisir, on sait pas ce qui arrive avec la suite à Delirium. C'est la beauté d'improviser comme ça.
J'en profite pour envoyer un coup de cœur à tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé du matériel, la gang du projet Otesha d'Ottawa qui traverse le Canada. Ça nous a fait plaisir de recevoir votre magnifique ouvrage. On va en parler sur notre site internet cette semaine. Donc, merci beaucoup à Natacha qui nous a envoyé ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient des courriels. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir et ça nous encourage à continuer. C'est pas parce que vous nous en envoyez pas qu'on reviendra pas la saison prochaine, mais on est en réflexion pendant le temps des fêtes. Et donc, comme vous le savez, c'est déjà la fin de Délirium environnemental. Ceux que vous avez entendu commenter l'actualité, Patrick Bonin, Nicolas Milo et Nicolas Mainville. Quelle équipe bionique. Merci beaucoup. Claudie Théberge à la mise en onde. Merci beaucoup d'avoir été là. Un gros merci aussi à Étienne Côté-Paluc qui mettra cette fois-ci à jour le site Internet cette semaine. Enfin, nous l'espérons. Moi, c'est Sofiane Lejean. J'espère qu'on se retrouve, si ce n'est pas ici à Délirium, ben dans d'autres cieux, plus cléments peut-être. Mais tout aussi baveux, ça c'est sûr.
Clément. Un défi pour Noël.
Défi de Noël.
Achetez pas de cadeaux.
T'es-tu
pas
malade?
Essayez donc.
Juste pour s'appelle, c'est pas capable.
Pas capable. Comme quoi, donner quelque chose.
Aimez-vous, faites l'amour. Juste faites quelque chose, mais donnez rien.
L'amitié?
C'est une belle idée.